Tu vois ce paysage ici avec le pré, le ruisseau, l'arbre? C'est à la fois l'œuvre de la nature et celle de l'homme. Et ceux qui ont délimité ce terrain, bâti ces maisons, planté cet arbre, même si leurs noms ne sont pas dans le dictionnaire, ce sont des artistes.
CO2, mon amour.
Tu sais, en principe, cet arbre, il doit rester.
Que tu crois, on abat toujours les arbres. On dit qu'on les conserverait sous un prétexte quelconque. En une heure, hop, on les abat, ni vu ni connu.
Avec Denis Chessoux.
Mais même si cet arbre reste, il est vieux, on sera obligé de l'abattre.
Un autre le remplacera. Si on faisait comme autrefois, on prévoirait de planter les arbres à l'avance pour les générations futures.
Sur France Inter.
Émission, vous l'avez compris, consacrée aux arbres. Ce sera l'occasion de retrouver aussi Jean-Marie Pelt, de vous emmener dans une forêt du Jura et donc avec Peter Houleben. Bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement, une émission qui rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature. C'est bien le cas aujourd'hui, avec Gilles Gaillard et Léo Prangère à la technique et assisté de Camille Blanès. C'est Xavier Pestudia qui réalise l'émission. Alors évidemment, une petite humeur, les lutins, branle-bas de combat sous le sapin, faut me réimprimer Johnny dans la Pléiade et l'intégrale Rock'n'Blues de Dormesson. Et alors, ne me sortez pas le code du travail, hein, parce que vous bossez un mois par an. Allez, au taf les lutins. L'un donnait confiance en la vieillesse, l'autre dans l'endurance d'un corps malmené par un abus de tisane bio. Car le miracle scientifique est bien que le talent de Johnny soit resté en vie jusque-là. Dormesson, aux valeurs de droite républicaine très ouvertes, avait l'élégance de ne pas étaler ses malheurs. En fait, ce mélancolique solitaire avait l'élégance tout court. Écrivain de la gaieté apparente, il avait la décision du bonheur. Alors, attrapait-il le dit bonheur? Allez savoir, ça, c'est l'histoire de chacun. Dormesson, voisin de Colette en Puisaye, goûta les choses de la nature dans l'Yonne, mais peu celles de la chasse dans le château maternel de Saint-Fargeau.
Les chasses à cour étaient une grande occupation de ma famille maternelle. J'étais petit, j'avais 8 ans. J'assistais à ça avec un peu de réserve, je crois, déjà. Ça se passait surtout dans la forêt de Saint-Fargeau. La légende familiale était que les paysans étaient très contents de voir leurs champs ravagés parce que c'était la chasse à cour qui passait. Mon père était très suspicieux sur cette satisfaction des paysans. Il était franchement hostile, la chasse à cour.
Dormesson appartient à notre patrimoine, Johnny à la mythologie française. Une permanence d'ailleurs qui annulait le temps. Ah, Johnny lisait Le plaisir de Dieu de Jean Dau, parce que Johnny était un peu un dieu. Et Johnny, il n'a pas fait qu'inventer le feu, non, il a allumé le feu. Un fils d'Aristo d'un côté, un fils de Prolo de l'autre, comme Springsteen, et un profond respect pour leur public qui pouvait très bien se mêler. Ils avaient la vie en commun. L'un sur scène envoyait du bois avec sa voix et fabriquait de l'énergie pour 10 000, et l'autre, eh ben, il avait une malice et un regard bleu à faire fondre un congélateur. Plutôt de sexe féminin, le congélateur, d'ailleurs. Le rapport, me direz-vous, entre Johnny, l'écologie et la nature, en fait, il n'y en a pas. Et peu importe aujourd'hui le bilan carbone de son départ avec les bikers à tous les étages sur les Champs-Élysées, l'avion pour Saint-Barth, non. C'est l'hommage de ceux qui l'aiment aujourd'hui qui compte. Alors soyons francs, les prises de position de Johnny sur le sujet environnemental étaient quand même assez faibles, malgré cet extrait qui le sauvera de l'enfer.
Vous m'affirmez qu'il y avait du sable et de l'herbe et des fleurs et de l'eau et des pierres et des arbres et des oiseaux. Alors, qui a marché dans ce chemin? Vous dites qu'il menait à une maison et qu'il y avait des enfants qui jouaient autour. Vous êtes sûr que la photo n'est pas truquée?
Alors, comme le rappelait Pastoureau, oui, si Johnny est mort, cela veut dire qu'on va tous mourir. Donc merci messieurs d'avoir rendu heureux pas mal de vos contemporains. Mais alors, on va pas faire les malins, hein. Il semble difficile quand même de retenir sa dernière nuit. Et allez, comme ça sent un peu le sapin, vive la vie, donc une émission sur les arbres à suivre avec Peter, donc Houleben. Et alors là, pour entrer au pays des arbres, moi, je vous propose de rencontrer une dame, moi, qui m'a initié peut-être le plus à la nature quand j'étais petit. C'était ma tante Marie de la Nièvre, du Bazois, du Morvan, qui avait pas mal d'humour et elle avait un peu celle de son voisin qui était Jules Renard. Donc elle n'avait que 90 ans quand j'avais réalisé ce petit son. Bon, elle en a eu à peine 104 quand elle a décidé de s'envoler, ben justement au-dessus des forêts.
Tu leur parles aux arbres?
Ah oui. Je dis, mon Dieu. Mais je vois sur la route de Chargeloup, il y en a un. Énorme. Il n'est pas beau. Il n'a certainement pas une grande valeur. Je reste assise là, à lui parler. Mais quand je regarde ses bras, tordus, tortillonnés, tu sais, plein de nœuds. J'ai dit, mon Dieu, il en a eu des coups de vent et des tempêtes et du tonnerre. Il a tout eu, il a souffert autant que j'ai souffert. Et qu'est-ce qu'il a pas entendu dire aussi sous ses ombrages, hein? Il y a peut-être des amoureux qui sont venus par là aussi, hein? Je veux pas qu'on abatte un arbre. Tu vois, alors là, le bois, là, c'est là que je voulais que tu t'arrêtes, là-bas, le bois. Eh bien, là, ils en ont abattu, moi, 35. Et c'est là que je vais, moi, chercher mes champignons. Mais j'ai pleuré en le voyant passer. J'ai dit, il a fallu qu'il... Il y en a encore 3 gros, là, dans le fond. Le marchand de bois m'a dit l'autre jour qu'il avait au moins 500 ans. Je trouve pas que c'est terrible de tuer un arbre comme ça. Lorsque ils l'ont abattu, ils m'en ont passé avant 3. Il n'est pas sorti, il est encore là. Il est encore couché là, il est marqué, il est vendu. Ils peuvent pas le sortir parce qu'il y a les foins, tu comprends. Mais après, ils vont encore défoncer mon chemin pour me le passer. T'as vu les pierres, hein? Bon. Enfin, ça ne fait rien. J'ai dit, moi, faut que j'aille lui dire adieu, ce pauvre arbre. Il était plus fort que celui-là. Celui-là doit avoir dans les 300 ans. Il est tellement lourd qu'ils ont été obligés de le couper en deux. Tu comprends? De toute sa longueur, mais ils pourraient pas l'emporter. Mais alors, vraiment, quand j'ai vu ce bois par terre, c'est un monstre, et que j'ai vu les veines du bois, ben, je te jure, c'est beau. Le cœur d'un chêne. Mais le cœur est lisse, tu sais, beau. Comment veux-tu que je me porte fort bien, moi? Avec une chlorophylle pareille qui m'entoure? Le soir, quand tu es toute seule, là, comme ça. Mais on est asphyxié par un parfum, tu peux pas le définir. Ça sent la résine, ça sent le chêne, ça sent l'acacia, tout mélangé. Vraiment, tu perds la boule, tu dis où suis-je, je suis dans une autre planète, mon Dieu que ça sent bon. Et alors le parfum 10 fois par-dessus, ah ben Garlin, il peut s'atteler, jamais il n'aura ce parfum-là. Moi, j'y suis au paradis terrestre, qu'est-ce que tu veux que je désire de plus? Moi j'appelle ça le paradis, il n'y a pas Ève ni Adam, heureusement qu'il vient pour me voir. Mais regarde, je me lève le matin, si c'est l'été, j'ai ce soleil là sur cette forêt, c'est splendide. Et je ne respire que ça, je vis de l'air de la forêt, moi.
Elle était tout sourire et elle s'appelait Marie Guérin. À suivre d'ici une vingtaine de minutes, ce sera donc Jean-Marie Pelt et dans quelques instants, ce sera Peter Houleben avec la vie secrète des arbres sur France Inter dans C'est haut de mon amour.
C'est haut de mon amour sur France Inter. Only your man.
Oh, me, oh, my.
Fabriqué aux États-Unis, du côté de Los Angeles, c'était Son Little, choisi par Muriel Pérez, notre programmatrice, donc musicien de Rhythm and Blues. Et nous aurons notre Johnny Hallyday, oui, qui chantera Brassens tout à l'heure. Peut-être pas la chanson que l'on connaît le plus, mais il adorait effectivement Brassens. Peter Willeben. Alors, Peter Willeben, ancien forestier allemand, qui en a eu un peu marre de considérer les forêts avec un regard de productiviste et de les débiter en boîte d'allumettes. Notre homme n'est pas scientifique, hein, mais il a puisé dans bon nombre, évidemment, de revues. Il a plutôt une approche, on va dire, philosophico, arboricolo-humaniste, qui hérisse parfois le poil de scientifiques qui sont aussi bons que purs et durs sur le sujet. Et alors, le succès de la vie secrète de la nature, bon, a peut-être dû mettre à genoux deux forêts à peu près, encore un peu plus avec l'édition intégrale, la nourrie de photos aux éditions des Arènes. Alors, je l'ai rencontré hier matin, dans une cabane au fond du studio, ici à France Inter. Et Peter Willeben, on va dire que moi je suis un être, je suis un faillard que vous aimez bien. J'ai décidé de vivre plus vieux que ma grand-tante pour arriver à 400 ans. Ça veut dire qu'il me faudra quand même franchir quelques obstacles.
Ja, ähnliche Hindernisse wie ein Menschenbaby.
J'ai à peu près les mêmes obstacles qu'un être humain.
Als erstes muss man eine gute Familie, eine gute Mutter haben.
Pour commencer, il faut avoir une bonne famille, une bonne maman.
Oui. Und dieser Mutterbaum, der kann mit seinen Wurzeln erkennen, ob die kleine Buche das eigene Baby ist.
Et cet arbre mère, en quelque sorte, il est capable de reconnaître avec ses racines s'il s'agit bien de son bébé.
Und
petit arbre est bien son bébé.
Dann verwechselt sie mit den Wurzeln, mit der kleinen Buche.
Donc il se met en relation avec le petit être à ce moment-là, und avec ses racines.
Versorgt sie mit Zuckerlösung.
Et il l'attire en quelque sorte avec une solution sucrée.
Das ist so ähnlich wie bei uns das Stillen.
C'est un peu comme chez nous l'allaitement.
Das ist hört sich so ein bisschen an wie ein Märchen, aber das ist eine Forschung der Universität von Vancouver.
Mais ça a l'air d'un peu d'un conte de fées, mais ça, c'est les résultats d'une recherche de l'université de Vancouver.
Ce qui veut dire qu'une maman, entre guillemets, arbre, va reconnaître son petit et ne va pas nourrir éventuellement les autres qui sont à côté.
Es gibt also auch mit den anderen Bäumen, also ob klein oder groß, vernetzen sich die Buchen.
Les êtres se mettent aussi en relation avec les autres arbres, qu'ils soient grands ou petits.
Aber das ist wie bei uns auch.
Wir sind c'est comme chez nous,
eine große Gesellschaft. Wir halten alle zusammen.
Une grande société où on se tient les coudes.
Aber es gibt stärkere Beziehungen zur eigenen Familie.
Mais il y a des relations plus fortes avec les membres de sa propre famille.
Mais tous ne vont pas devenir un être, parce qu'il y a quand même l'épreuve de la lumière, l'épreuve peut-être des intempéries.
Also für die kleinen Bäume gibt es da keine Probleme.
Les petits arbres n'ont pas de problème avec ça, en fait.
Weil die großen Bäume das alles abschirmen.
Puisqu'ils en sont protégés par les grands arbres.
Das einzige Problem sind Tiere.
Le seul problème, c'est les animaux.
Und für Tiere sind Bäume zu langsam.
Et pour les animaux, les arbres sont trop lents.
Und deswegen wird aus 2 Millionen Bucheckern, Buchensamen, nur ein Baum.
Et c'est pour ça que sur 2 millions de graines, il y a un seul être qui en sort.
Alors, il y a une notion quand même qui est extrêmement forte dans la nature et qu'on a un petit peu oubliée parce qu'on a beaucoup parlé de la loi de la jungle. C'est la notion de solidarité.
Ja, wir haben früher gelernt, Evolution heißt nur der Stärkste überlebt.
Oui, autrefois on nous a appris dans l'évolution, c'est le plus fort qui gagne.
Und heute wissen wir, dass Bäume eine Sozialgemeinschaft bilden.
Mais aujourd'hui, nous savons que les arbres forment une communauté sociale.
Weil ein einzelner Baum weiß, allein bin ich kein Wald.
Parce que l'arbre isolé sait, tout seul, je fais pas une forêt.
Und nur als Wald können sie gemeinsam ein Lokalklima erzeugen, was kühl und feucht ist.
Et c'est seulement en formant une forêt qu'ils peuvent former un microclimat suffisamment humide et frais.
Und nur dann können Bäume sehr, sehr alt werden.
Et c'est la condition pour qu'ils puissent atteindre un âge avancé.
Et on est bien quand on est serré dans une forêt, peut-être en particulier forêt de hêtre, parce que très souvent, on pratique ce qu'on appelle les éclaircissements.
Ja, und das ist das Gegenteil von dem, was ich auch als Förster gelernt habe.
Et c'est exactement le contraire de ce qu'on m'a appris quand j'ai pour être forestier.
Wir denken immer, dass wir Bäumen Platz machen müssen, damit sie gut und vor allem schnell wachsen.
On croit toujours qu'il faut ménager une place importante à l'arbre pour qu'il puisse croître de façon satisfaisante.
Aber Bäume wollen gar nicht schnell wachsen.
Eine Mais les arbres, ils ont pas du tout envie de grandir vite.
Eine Baumkindheit zum Beispiel dauert 200 bis 300 Jahre.
L'enfance d'un arbre, c'est 200 ans, 300 ans.
Und Zeit spielt für Bäume keine Rolle, im Gegensatz zu uns.
Et pour eux, le temps n'a aucune importance, c'est pas comme nous.
Mais si je pousse dans une forêt de production, je dois quand même respecter un règlement intérieur.
Plantagenbäume leben wie Straßenkinder oder wie Tiere in der Massentierhaltung.
Disons que les arbres de plantation vivent comme des enfants des rues ou comme des animaux dans un élevage intensif.
Und gepflanzte Bäume, und das haben wir sehr viel in Deutschland, aber auch in Frankreich, haben gestörte Wurzeln.
Et ces arbres de plantation, on en a beaucoup en France, en Allemagne, ont des racines endommagées.
Also die Wurzeln werden durch die Pflanzung beschädigt.
Et les racines sont endommagées par le fait même de la plantation.
Und in diesen Plantagen finden wir deswegen kaum Sozialkontakte zwischen den Bäumen.
Et donc dans ces plantations, il n'existe quasiment aucun contact racinaire entre les arbres.
Und das ist einer der Gründe, warum Plantagenbäume so empfindlich sind gegenüber Insekten und Pilzattacken.
C'est l'une des raisons pourquoi ces arbres de plantation sont aussi vulnérables aux attaques d'insectes et de maladies, de parasites et autres.
Le rôle racinaire de l'arbre.
Auch das weiß man nicht so genau heutzutage.
En fait, on ne le sait pas exactement encore aujourd'hui.
Weil die Wissenschaft hat sich bisher immer auf Holz, auf Sauerstoff, auf Kohlendioxid, also auf Funktionen beschränkt.
La science jusqu'ici s'est concentrée sur le bois, sur le gaz carbonique, sur des fonctions en fait.
Und man weiß zum Beispiel bis heute nicht, wie das Wasser von unten nach oben kommt in einem Baum.
En fait, on ne sait toujours pas aujourd'hui comment l'eau remonte dans un arbre.
Oder wenn wir zum Beispiel sagen, wir haben einen Baum gefällt, ist er dann tot oder lebt er noch, weil die Wurzeln ja noch leben?
Par exemple, lorsqu'on coupe un arbre, on ne sait toujours pas s'il est mort ou s'il est encore vivant, parce que les racines sont vivantes.
Wir wissen zum Beispiel nicht, wo ein Baum seine Erinnerungen speichert.
Nous ne savons pas où un arbre stocke sa mémoire, par exemple.
Aber wir wissen, dass Bäume zählen können.
Mais nous savons que les arbres savent compter.
Zum Beispiel die warmen Tage im Frühjahr über 20 Grad.
Qu'est-ce qui compte les saisons?
Par exemple, ils comptent les journées chaudes au-dessus de 20 degrés au mois de mars.
Ja, weil sie nicht zu früh austreiben möchten.
Parce qu'ils ne veulent pas sortir leurs feuilles trop tôt.
Ja, und die Frage ist dann, wo merken sie sich das? Weil sonst
question, où est-ce qu'ils conservent cette information?
Sonst würden sie ja jeden Tag wieder bei 1 anfangen.
Ja, sinon, ils pourraient recommencer à zéro chaque jour.
Alors, vous parlez aussi, évidemment, de communication entre les arbres. Qu'est-ce que la science nous a appris récemment sur ce sujet?
Man weiß noch nicht so viel, aber man hat schon hunderte verschiedene Botschaften entschlüsselt.
On ne sait pas encore grand-chose, mais on a déjà déchiffré des centaines de messages, en fait.
Also Bäume kommunizieren zum Beispiel über Gas, das ist das, was Sie eben gesagt haben.
Les arbres communiquent entre autres par des échanges gazeux.
Aber eben auch über die Wurzeln und über ein Pilzgeflecht.
Mais également à travers leurs racines et un réseau de champignons.
Und durch dieses Pilzgeflecht werden chemische und elektrische Nachrichten verschickt.
Et à travers ce réseau de champignons s'échangent des messages électriques et chimiques.
Und das ist das, was die Zeitschrift Nature schon 1995 das Wood Wide Web genannt hat.
C'est ce que la revue Nature avait déjà appelé dans les années 90 le Wood Wide Web.
Très souvent, Peter Wedeben, c'est vrai que quand on reprend votre vocabulaire, bah vous parlez donc de bien-être des arbres, de douleur, de souffrance, d'amitié, d'entraide, de mémorisation, donc de communication. Est-ce que vous n'avez pas un peu tendance quand même à humaniser, on va dire, entre guillemets? Et alors carrément, peut-être même d'abolir la barrière des espèces?
Nein, aber wir haben zum Beispiel auch in den 1960er Jahren gedacht, dass menschliche Säuglinge keinen Schmerz spüren.
Mais dans les années 60, on croyait encore que les nourrissons humains ne ressentaient pas la douleur.
Und deswegen sind sie ohne Betäubung operiert worden.
C'est pour ça qu'on les opérait sans anesthésie.
Heutzutage darf man bei Schweine immer noch ohne Betäubung kastrieren.
Aujourd'hui, on est encore autorisé à castrer les porcelets sans anesthésie.
Obwohl wir jetzt alle wissen, natürlich empfinden sie Schmerz.
Alors que nous savons tous qu'ils ressentent la douleur.
Und die Grenze zu den Pflanzen, ja, das ist richtig, in Bezug auf solche Sachen gibt es gar nicht.
La barrière avec les plantes, en réalité, n'existe pas.
Diese Einteilung Mensch, Tier, Pflanze, die stammt aus einer Zeit vor 300 Jahren.
Cette répartition homme, animaux, plantes, elle date de 3 siècles.
C'est-à-dire que vous êtes un antispéciste végétal, quoi.
Nein, also es ist, also unter bestimmten biologischen Aspekten macht die Einteilung Sinn, aber nicht unter allen.
Oui, sous certains aspects, cette différenciation fait sens, mais pas sous tous les aspects.
Ja, und das ist etwas, das haben unsere Vorfahren anders gesehen. Also es gibt schöne Berichte aus dem Mittelalter, aus Frankreich.
Et nos ancêtres voyaient ça autrement. Il y a des récits très intéressants qui datent du Moyen-Âge.
Dass man Natur ganz, ganz anders gesehen
hat. On voyait la nature de façon très différente.
Und ich glaube, jeder von uns spürt, dass Natur eben keine Maschine ist.
Chacun d'entre nous se rend bien compte que la nature n'est pas une machine.
Sondern dass das auch alles Wesen sind, die in irgendeiner Art und Weise ähnlich wie wir funktionieren.
Mais qu'il s'agit d'êtres vivants qui d'une manière ou d'une autre fonctionnent un peu comme nous.
Qu'est-ce que l'on a aujourd'hui comme preuve scientifique de, mettons, de la souffrance des arbres?
Also man weiß, dass Bäume bei Verletzung ähnlich reagieren wie wir.
On sait que les arbres réagissent à peu près comme nous à des agressions ou à des blessures.
Also wenn ein Baum verletzt wird, laufen elektrische Signale durch das Gewebe.
Lorsqu'un arbre est agressé ou blessé, des signaux électriques parcourent ses tissus.
Und es läuft eine Abwehrreaktion.
Et ça déclenche une réaction de défense.
Und der Baum merkt zum Beispiel den Unterschied, ob ein Hirsch reinbeißt in die Zweige.
Un arbre se rend compte, il est capable de faire la différence, de savoir si c'est un cerf qui est en train de mordre son écorce.
Das kann der Baum am Speichel des Hirschs schmecken.
Il le sent parce qu'il reconnaît le goût de la salive du cerf.
Ja, das ist eine Forschung der Universität Leipzig von vor zwei Jahren.
C'était montré par une recherche de l'Université de Leipzig il y a deux ans.
Und dann leitet der Baum sofort Abwehrreaktionen ein.
Et donc l'arbre déclenche tout de suite une réaction de défense.
Indem er zum Beispiel Gift einlagert.
Dans la mesure où il mobilise du poison.
Also der Mensch einen Zweig abschneidet.
Et si c'est un homme qui coupe une branche.
Dann startet der Baum mit einer Wundheilreaktion.
L'arbre déclenche une réaction qui consiste à soigner la blessure.
Das heißt, es laufen ganz ähnliche Dinge ab, wie wenn wir verletzt sind. Dann haben wir auch verschiedene Strategien.
Donc c'est un peu comme chez nous, nous avons aussi des stratégies différentes en fonction de la blessure qui nous est infligée.
Ob sich der Schmerz so anfühlt wie für uns, das weiß ich nicht.
Alors est-ce qu'ils ressentent la douleur comme nous, ça je n'en sais rien, bien sûr.
Ich weiß auch nicht, wie sich für ein Schwein Schmerz anfühlt.
Et je sais pas non plus comment un porc ressent la douleur.
Oder auch bei Ihnen, wie sich bei Ihnen Schmerz
anfühlt. Je ne sais pas non plus comment vous-même vous ressentez la douleur.
Aber es laufen überall die gleichen Mechanismen ab.
Mais les mécanismes sont identiques.
Est-ce que l'on peut parler d'intelligence ou même peut-être de cerveau chez l'arbre, parce que de temps en temps vous employez ce terme-là?
Das weiß ich nicht.
Je ne sais pas.
Ich weiß, dass in den Wurzelspitzen, das ist eine Forschung der Universität Bonn.
Je sais que dans l'extrémité des racines, ça a été montré par une étude de l'université de Bonn.
Da sind gehirnähnliche Strukturen und gehirnähnliche Prozesse.
Il y a des structures et des processus qui sont identiques à ceux d'un cerveau.
Und damit trifft ein Baum Entscheidungen.
Et c'est avec ça que l'arbre prend des décisions.
Aber der Baum hat kein Gehirn wie wir.
Mais l'arbre, bien sûr, n'a pas de cerveau comme nous.
Ein polnischer Forstwissenschaftler hat mir vor vier Wochen eine interessante Theorie erzählt, seine Theorie.
Un botaniste polonais m'a expliqué récemment une théorie très intéressante, la sienne.
Er meint, dass die Wurzelspitzen wie eine Cloud funktionieren.
Et il pense que le système racinaire fonctionne un peu comme un cloud d'ordinateur.
Ja, und ein Baumgehirn sieht sicher anders aus, aber vielleicht ist das die Lösung, aber ich persönlich weiß das
im Moment noch nicht. Je n'en sais rien.
À suivre dans à peu près 4 minutes, ce sera Jean-Marie Pelt, arbre et champignon à destin partagé, pour rester dans le même thème. Et puis, la seconde partie de l'entretien avec Peter Willeben. Et là, ben non, c'était pas auprès de mon arbre, mais vous allez voir, c'est très très bien.
La grande route, elle cheminait sans parapluie. J'en avais un volé sans doute le matin même à un ami. Courant alors à sa rescousse, je lui propose un peu d'abri en séchant l'eau de sa frimousse. D'un air très doux, elle m'a dit. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Et un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change par dire. Chemin faisant que ce fut tendre, d'où ira deux le chant joli. Que l'eau du ciel faisait entendre sur le toit de mon parapluie. J'aurais voulu, comme au déluge, voir sans arrêt tomber la pluie pour la garder sous mon refuge. 40 jours, 40 nuits. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, mais je... je ne perdais pas aux chances hardies. Et bêtement, même en orage, les routes vont vers des pays. Bientôt le sien fit un barrage à l'horizon de ma folie. Il a fallu qu'elle me quitte après m'avoir dit grand merci. Et je l'ai vue toute petite partir gaiement vers mon oubli. Et un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Et un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas aux chances mardi. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas aux chances mardi.
Quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée, le dernier poisson capturé, alors seulement vous vous apercevrez que l'argent ne se mange pas. Ouais, prophétie d'un Indien Cree.
CO2 Mon Amour avec Denis Chessou sur France Inter.
Et la voix de Jacques Bonafé, alors botaniste, pharmacien, scientifique et je dirais avant tout humaniste, Jean-Marie Pell, c'est l'occasion de le retrouver. C'était au mois de janvier 2009. Lui aussi avait donc suivi tous ses travaux depuis longtemps. Il nous avait parlé de cette relation entre les acacias et les antilopes qui pouvaient communiquer lorsque l'acacia était attaqué. Là, c'est arbres et champignons, donc un destin partagé, Jean-Marie, une sorte de valse végétale.
Bonjour Denis, bonjour à tous. Oui, c'est une valse à trois temps. Quand j'ai fait mes études, on apprenait que les arbres avaient des racines, ce qu'on savait déjà, que ces racines puisent dans le sol des sels minéraux et de l'eau, que tout ça monte par les vaisseaux jusque dans les feuilles, que dans les feuilles, l'eau servait à se combiner avec du gaz carbonique, que ça donnait des sucres, grâce à la chlorophylle qui piquait la lumière du soleil comme énergie.
Premier temps.
Alors le deuxième temps laisse apparaître tout à coup des champignons. Voilà, des champignons viennent se mêler à l'histoire et on s'aperçoit que en fait les racines sont prolongées par des filaments de champignons qui se répandent dans le sol et qui vont chercher pour les racines des sels minéraux que les racines sont pas très capables de sortir de terre, notamment les phosphates. Et les phosphates, c'est très important, parce que quand ces phosphates vont monter par les vaisseaux pour arriver dans les feuilles, il va se faire la synthèse de l'ADN aussi. Et l'ADN contient des molécules de phosphates. Donc, le champignon rend un service tout à fait étonnant à l'arbre, mais le champignon, il est sans chlorophylle. Il est dans l'obscurité de la terre. Donc, il ne peut pas faire la photosynthèse, lui. Il ne peut pas fabriquer de la matière vivante. Il n'a pas d'énergie solaire. Il n'a pas de chlorophylle. Donc il faut le nourrir. Alors la sève qui descend par les vaisseaux va dans les racines et passe dans le champignon. D'accord. Et le champignon est nourri. Donc le champignon nourrit l'arbre en sels minéraux et l'arbre renvoie l'ascenseur et nourrit le champignon en matière organique.
Échange de très bons procédés.
Ah oui, c'est merveilleux, c'est une symbiose parfaite. C'est une des plus belles symbioses du règne végétal. Et puis alors il y a le troisième temps. Alors celui-là, il est tout récent. On a découvert ça dans les 10 dernières années. En fait, ces champignons filamenteux mettent en relation des racines d'arbres différents. Et alors se constituent des potentialités nouvelles parce que les arbres, ou les herbes d'ailleurs, vont échanger grâce aux champignons. Il y a une petite plante, c'est une herbe là, qui s'appelle la monotrope. Il y a aussi une petite orchidée qui s'appelle la néocie. Ce sont des plantes qui ne font pas de chlorophylle, qui sont incapables de se nourrir. Eh bien, elles sont par leurs racines liées à des arbres. Pour la monotrope, c'est des pins. D'ailleurs, les gens l'avaient remarqué depuis très longtemps parce qu'on l'appelle le suspin. C'est un champignon par son petit filament qui prend de la nourriture dans le pin et qui va l'apporter à distance, par conséquent, aux racines de la monotrope qui donc est nourrie. Bon, ça se complique encore davantage dans des cas qui ont été étudiés au Canada. Vous connaissez la forêt boréale, il y a des conifères et il y a...
Du Douglas.
Et puis il y a des bouleaux.
Oui.
Eh bien, on a montré qu'en été, le bouleau, en pleine feuille, floraison, en pleine foliation, donne de la nourriture au Douglas. Il nourrit le Douglas, par la racine et par les filaments.
Ils donnent la béquille souterraine, là, comme
ça. Ils donnent la béquille souterraine.
Quel est l'intérêt? Je veux dire, c'est quoi pour... Eh bien, chacun y trouve son compte, mais...
L'intérêt, c'est que chacun y trouve son compte, parce que si ce boulot est si gentil, il va recevoir en retour une gentillesse de la part du Douglas, parce qu'il y aura l'automne, parce qu'il y a le printemps, et que là, il n'a pas de feuilles, donc il ne peut pas faire de la nourriture. Et donc, le Douglas, qui déjà s'est réveillé de son sommeil hivernal, ou qui en automne n'y est pas encore rentré, et qui fait encore la photosynthèse, envoie au bouleau, qui n'a pas de feuilles, et qui donc est dénutri, des sucres, et ils se nourrissent ainsi, chacun à leur tour. Et alors, il y a des cas où ça dégénère. Il y a deux plantes, un panique, c'est une herbe, et un plantain. Eh bien, le panique, il pompe le plantain. Et quand ils sont tous les deux ensemble installés à quelque part, on voit petit à petit les plantains disparaître et les paniques se porter très, très, très bien.
Donc là, c'est plus la coopération. Là, c'est...
Non, alors ça a glissé.
Oui.
Et c'est pour montrer qu'il n'y a pas des frontières absolues. Mmh. Et qu'entre la symbiose et le parasitisme, il y a une capacité de passer de l'un à l'autre. Et un autre exemple très intéressant, quand il y a une friche, on a démoli une maison, et il y a les gravats, puis il y a des herbes qui apparaissent. Mais si vous y retournez 3 ans après, toutes ces herbes ont disparu. Elles sont remplacées par des herbes qui sont stabilisées et qui se sont installées. Les pionniers ont tous disparu. Eh bien, les pionniers se sont fait pomper par les autres qui sont arrivés. Et ainsi, les pionniers pompés crèvent, les autres les remplacent, ils se font pomper aussi, ils crèvent aussi, et finalement, un équilibre s'établit au bout de 3 ou 4 séquences successives. Et quand, dans un maquis corse, les chênes verts prennent le dessus, pourquoi ils prennent le dessus? Parce qu'ils pompent les arbousiers. Et tout ça, c'est grâce au réseau des champignons. C'est Internet.
Oui, c'est une grande toile.
Et c'est une immense toile, et les sucres, les aliments passent dans la toile. Alors, on termine parce qu'il y a une belle histoire, c'est l'arbre de Noël. On n'a pas été foutu de mettre des conifères en Australie. On y a apporté un sapin de Noël. Et puis, un forestier a eu l'idée de mettre le sapin avec la motte dans le sol. Parce que dans la motte, il y avait les filaments de champignons. Et le sapin ne pouvait pas prendre dans le sol australien parce que les champignons n'étaient pas là. Eh bien, grâce à cette motte qu'on a mise dans le sol australien, le sapin a poussé, et puis on a fait venir comme ça des échantillons de sol, et on a pu instaurer le sapin en Australie, alors qu'on n'y avait pas réussi grâce aux champignons qui sont petits. C'est des tout petits, ils sont de l'obscurité, ce sont des filaments, personne ne les voit. Est-ce les plus faibles?
Voilà. Et le Père Noël donc a pu arriver en Australie,
oui.
Alors qu'il ne connaissait pas ce continent avant.
Non, avant il ne connaissait pas.
Voilà.
Plaisir de retrouver bien sûr Jean-Marie Pelt, que Peter Rubelen a lu, parce que Jean-Marie donc a beaucoup vulgarisé aussi ces sujets. Donc Peter Rubelen, avec La vie secrète des arbres, donc deuxième partie. Je vous signale qu'en fin d'émission, je vous emmènerai dans le Jura pour découvrir quoi? Un arbre à vœux avec un ancien forestier. Qu'est-ce qu'un arbre à vœux? Ah ben, faudra attendre un petit peu. Si vous avez loupé, d'ailleurs aussi, la première partie, ça peut arriver. Bah oui, bien sûr. Donc, de Willeben, vous avez le podcast franceinter.fr qui est à votre disposition. On parle avec vous, donc, Peter Willeben, donc, enregistré hier, avec une traduction de Bernard Mangiante. Merci Bernard Mangiante. Du réchauffement, quand même, réchauffement climatique et forêt.
Unsere Wälder in Europa, auch hier in Frankreich, die natürlichen Wälder, haben mit dem Klimawandel überhaupt kein Problem.
Also, nos forêts européennes, les forêts naturelles, s'entend, n'ont pas de problème avec le réchauffement climatique.
Wenn man sie in Ruhe lässt, können die das Innenklima eines Waldes sehr gut selber regulieren.
Si on les laisse tranquilles, elles sont tout à fait capables de réguler en interne leur propre climat.
Mais on voit quand même des espèces qui remontent vers le nord.
Aber unsere heimischen Wälder, die Buchen- und Eichenwälder, die brauchen gar nicht wandern, weil sie sich im Sommer ohne Probleme um 3 Grad herunterkühlen können.
Mais nos forêts endémiques, si on peut dire, n'ont pas besoin de migrer. Elles sont parfaitement capables de faire baisser leur température de 3 degrés en été.
Und die Kulturwälder, die Plantagen, die haben Probleme.
Quant aux arbres de plantation, eux, ils ont des problèmes.
Wie zum Beispiel die Pinienwälder in Südfrankreich.
Die bekommen große Probleme. Plantées dans le sud, en France, par exemple.
Aujourd'hui, d'ailleurs, notre dernière forêt primaire européenne est quand même attaquée. On le voit. Donc, la Cour européenne donc aussi a assigné la Pologne à 100 000 euros par jour d'amende. Pour éviter donc ces coupes et pourtant ça continue.
Ja, und das ist auch einer der Gründe, warum ich nächstes Jahr im Mai nach Polen fahre, um dort in diesem Urwald von Białowieża Aktionen mit Umweltverbänden zu machen.
Oui, c'est la raison pour laquelle je compte me rendre en Pologne en mai prochain pour entamer une action avec les associations environnementales locales polonaises pour essayer de faire quelque chose pour cette forêt.
Le bois énergie, où en est-on et qu'en pensez aujourd'hui?
Wir verwenden Holz, weil wir denken, es wäre CO2-neutral.
Nous utilisons le bois parce que nous pensons que c'est neutre du point de vue carbone.
Ja, aber das ist nur ein PR-Märchen der Forstindustrie.
Mais ce n'est qu'un conte de fées de l'industrie forestière.
Es gibt große, seriöse Forschungen, die belegen, dass Holz in Bezug auf das Klima genauso wie Öl oder Gas abschneidet.
Il y a des études très sérieuses qui montrent que le bois est à peu près équivalent au pétrole du point de vue climatique.
Also ich bin nicht gegen eine Holznutzung, sonst dürfte ich auch keine Bücher schreiben.
Je suis pas du tout contre l'utilisation du bois, sinon je ne m'autoriserais pas à écrire des livres.
Aber wenn wir etwas für das Klima, für die Umwelt tun möchten, dann müssen wir Wälder in Ruhe lassen.
Mais si on veut vraiment faire quelque chose pour le climat, il faudrait laisser les forêts un peu tranquilles.
On le rappelle, hein, les gens les voient très souvent comme une forêt de production, comme un lieu de production, mais c'est un rôle écologique énorme. Érosion des sols, éponge à eau, création de biodiversité, régulateur du climat, ça attire la pluie, ça apporte de l'oxygène aux vivants, et aussi, c'est un réservoir de rêves et de mythologie, les forêts.
Ja, aber das ist, was interessant ist. Wir sehen Bäume immer als in einer dienenden Funktion für den Menschen.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit toujours les arbres comme s'ils étaient là pour avoir une utilité. Pour les êtres humains.
Aber was ist mit Elefanten in der Serengeti? Wozu sind die da?
Mais les éléphants du parc de Serengeti sont là pourquoi?
Die tun nichts fürs Klima, ils
font rien pour
produzieren keinen Sauerstoff, sie produzieren
pas d'oxygène,
sie machen kein Wasser, reinigen kein Wasser, sie reinigen kein Wasser.
Ils purifient pas l'eau, enfin bon.
Die schützen wir aus moralischen Gründen.
Et cela on les protège pour des raisons morales.
Und bei Bäumen brauchen wir immer eine Funktion, um sie für wichtig zu halten.
Et pour ce qui est des arbres, on a toujours besoin de leur attribuer une fonction pour consentir à les protéger.
Und wenn man es so sieht, Bäume gibt es seit 300 Millionen Jahren.
Et si on réfléchit un peu, les arbres, ils sont là depuis 300 millions d'années.
Menschen gibt es seit 300.000 Jahren.
Les hommes sont là depuis 300 000 ans.
Und Forstwirtschaft gibt es geregelt erst seit 300 Jahren.
Et la science forestière, si on peut dire, elle existe depuis 300 ans.
Also die meiste Zeit haben Bäume ohne den Menschen existiert.
Donc les arbres ont passé quand même la plus grande partie de leur existence sans l'humanité.
Und wenn wir etwas schützen wollen, respektieren wollen, dann würde ich Bäume gerne so sehen wie Elefanten.
Et si on veut vraiment protéger quelque chose, j'aimerais qu'on considère les arbres un peu comme les éléphants.
Est-ce qu'on peut pas considérer la forêt comme étant l'inventeur du développement durable? Quand on regarde une forêt, tout fonctionne, sans déchets, tout se recycle.
Interessanterweise selbst das nicht.
Et c'est intéressant de constater qu'en fait, non.
Auch ein Wald verändert sich, wenn auch in großen Zeiträumen.
La forêt se transforme elle aussi, même si c'est sur des temps très très longs.
Nach der Eiszeit hatten wir hier Eichen und Haselnuss.
Après la dernière glaciation, nous avions ici des chênes et des noisetiers.
Und momentan wäre die Buche hier die Baumart.
Et à l'heure actuelle, disons que ce serait le hêtre, l'espèce dominante.
Also auch Wälder verändern sich ständig.
Und les forêts se transforment en permanence.
Und entziehen der Luft auch laufend CO2.
Ils prélèvent sans cesse de l'oxygène dans l'atmosphère.
Und es ist kein Kreislauf von CO2.
Et ce n'est pas un cycle du gaz carbonique.
Sondern das wird in Form von Humus immer weiter im Boden gespeichert.
Mais c'est stocké en permanence sous forme d'humus dans le sol.
Und bildet dort Vorstufen von Kohle.
Ou ça produit ce qui deviendra plus tard du charbon.
Also Wälder verändern auch ständig die Luft.
Donc les forêts transforment l'air.
Ich weiß nicht, ob dann eines Tages kein CO2 mehr in der Luft gewesen wäre, wenn der Mensch jetzt nicht angefangen hätte, die Speicher wieder zu leeren.
Je ne sais pas si on serait arrivé à un point où il y aurait plus eu de gaz carbonique dans l'air si l'homme ne s'était pas interposé.
Und ich will damit auch nicht sagen, dass es gut ist, dass wir Kohle und Öl verbrennen.
Et je veux pas dire que c'est une bonne chose si nous brûlons du charbon et du pétrole.
Was ich damit nur sagen möchte, dass auch die Umwelt sich ständig verändert. Es gibt dort keinen ewigen Kreislauf.
Je veux dire simplement que la nature se transforme sans cesse, il n'y a pas de cycle éternel.
Peter Houbelen, vous avez été forestier productiviste et aujourd'hui, vous avez eu cette chance de, entre guillemets, de fabriquer une forêt écologique. Qu'est-ce que c'est une forêt écologique? Alors, il n'y a pas de pesticides, on s'en doute, mais quoi d'autre?
Der besteht aus heimischen Baumarten.
Cette forêt est composée d'espèces indigènes.
Dort lassen wir Bäume in ihren Familien leben.
On y laisse les arbres vivre au sein de leur famille.
Und wenn wir einzelne Bäume fällen, dann nur mit Waldarbeitern und Pferden, nicht mit schweren Maschinen.
Et lorsqu'on coupe des arbres, c'est toujours avec des bûcherons et des chevaux et jamais avec des machines agressives.
Und der Wald muss auch nach der Bewirtschaftung so aussehen, als wäre er unberührt.
Et après l'exploitation, la forêt doit présenter le même aspect que si on n'y avait pas touché.
Das ist dann zwar kein Urwald, das ist auch klar.
C'est bien entendu pas une forêt primaire, hein, c'est
clair. Und genau deswegen kombinieren wir Reservate mit solchen ökologisch bewirtschafteten Wäldern.
C'est pourquoi on combine toujours des réserves avec des forêts gérées de manière écologique.
Und das ist nach dem heutigen Stand das Beste für den Wald.
Et apparemment, d'après l'état actuel des recherches, c'est ce qu'il y a de mieux pour les forêts.
Aber wer weiß, wie ich in 5 Jahren darüber denke. Ich muss auch noch lernen.
Mais j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, on verra dans quelques années.
Est-ce que vous ne craignez pas aujourd'hui un manque de diversité dans les forêts parce qu'on voit davantage de résineux qui sont plus rapides en croissance que des feuillus?
Also in den aktuellen Wäldern oder sagen wir besser Plantagen ist eine große Artenarmut, das ist richtig.
Oui, il y a effectivement une très grande pauvreté d'espèces dans les forêts, enfin surtout dans les plantations actuelles, ça c'est vrai.
Aber ich bin sehr optimistisch, wenn ich zum Beispiel nach Brasilien schaue.
Mais je suis très optimiste, par exemple, lorsque je regarde le Brésil.
Die Wälder, die wir als Primärregenwälder betrachten.
Les forêts que nous considérons comme des forêts primitives.
Ja,
tropical.
Ja, also als ursprüngliche Regenwälder. Das stellt sich heraus, dass sie das zu großen Teilen gar nicht sind.
On s'aperçoit en réalité que pour la plus grande partie, elles ne le sont pas.
Die sind vor 4000 Jahren von Indianern bewirtschaftet worden.
Elles ont été exploitées il y a des milliers d'années par des Indiens.
Und das Jahr 1500 ist diese Kultur erloschen.
Et vers l'année 1500 à peu près, vers l'an 1500, cette culture-là a disparu.
Und die Wälder haben sich seither so gut erholt, dass wir heute denken, sie wären unberührt.
Diese forêts s'en sont tellement bien remises qu'on croit aujourd'hui qu'il s'agit de forêts primaires.
Also lassen wir mal schauen, wie die französischen Wälder in 500 Jahren aussehen.
Mais attendons de voir à quoi ressembleront les forêts françaises dans 500 ans.
On voit bien que vous avez quand même une passion, Peter Houbelen, aussi pour les chênes et pour les hêtres. Ce sont peut-être les deux arbres que vous connaissez le mieux. Qu'est-ce qu'ils vous ont appris, ces deux arbres?
Ich habe von denen gelernt, dass die Sozialgemeinschaft sehr, sehr wichtig ist.
Ils m'ont appris que la communauté sociale est extrêmement importante.
Und ich würde auch gar nicht Bäume vermenschlichen wollen.
Et j'ai pas du tout dans l'intention d'humaniser les arbres.
Sondern es ist eher umgekehrt. Wir funktionieren ähnlich wie Bäume.
Mais c'est l'inverse. Nous fonctionnons un peu comme des arbres.
Und wenn man kann es auch mal anders ausdrücken, wenn wir auf die moderne Politik schauen.
Et on pourrait exprimer ça autrement en regardant la politique actuelle.
Dann kann man sagen, Bäume sind so sozial,
on pourrait dire, les arbres sont tellement sociaux,
dass sie niemals Donald Trump gewählt hätten.
Qu'il n'aurait jamais élu Donald Trump, par exemple.
Le jour où vous parlerez arbres complètement, qu'aimeriez-vous leur dire?
Ich würde gar nichts sagen, ich würde erst mal zuhören.
Je crois que je ne dirai rien, je commencerai par écouter.
Peter Wouleben, donc la vie secrète des arbres avec cette édition donc avec des photos qui viennent de sortir donc aux éditions des Arènes. Bah oui, donc évidemment qu'il y a, il y a toujours de la polémique derrière. Les scientifiques sont pas toujours d'accord, mais c'est tout à fait intéressant aussi. Mais en tout cas, c'est un ouvrage de grande vulgarisation sans aucun souci pour découvrir véritablement ce monde des arbres dont on a besoin. Hein. Jean-Louis Etienne est quelqu'un qui, lorsqu'il partait dans les régions froides, d'aller enlacer un platane qu'il aimait bien dans son Tarn natal, voilà, et peut-être que beaucoup d'entre vous aussi captent l'énergie donc de ces arbres. Alors à suivre, c'est pas fini notre balade arboricole, je vais vous emmener d'ici 3-4 minutes dans le Jura, découvrir un arbre à vœux. Après qui ? Albin de la Simone.
Tu dis la douleur aujourd'hui, la mort, la maladie, le corps et la mémoire, l'abandon et l'espoir. C'est dans la tête tout ça, c'est dans la tête. Tu dis l'amour, l'ami, y en a encore ou plus. On a encore envie, on se plaît, on sait plus. C'est dans la tête tout ça, c'est dans la tête. Seulement, parfois dans ma tête, tu vois, il n'y a que de l'eau, une poignée d'eau salée, une poignée d'eau brouillée. La peur, la solitude, le tourbillon, la poisse, les frissons de l'angoisse. Tu dis tout ça, c'est dans la tête, c'est dans la tête, tu crois.
Ah bah oui, c'est dans la tête. Albin de la Simone, donc sur France Inter, CO2 mon amour, je vais vous faire découvrir peut-être ou redécouvrir un arbre à vœux. Ah, qu'est-ce que c'est un arbre à vœux ? Alain Gouin, c'est un ancien forestier de l'ONF, aujourd'hui il s'occupe d'éducation donc à la forêt. Et nous allons partir dans cette très belle forêt, c'est la deuxième plus grande forêt de feuillus de France, à savoir la forêt de Chaux. Nous sommes dans le beau département du Jura, on est dans la plaine, hein. Dole n'est pas loin, Arquessenon non plus, donc on n'est pas dans la partie vignoble, ni après évidemment sur les plateaux et au plateau du Jura. Non, on est bien dans la plaine et on découvre avec Alain Gouin l'arbre à vœux.
On a deux sortes de chênes. On a des chênes porteurs de vierges. Alors là, c'est intéressant parce que on retrouve les dévotions qu'on a toujours faites au pied de certains arbres, qui ont été toujours des lieux de culte. Hein. L'homme s'est toujours rapproché des arbres quand il a été en besoin, quand il a été en souffrance. On va vers certains arbres pour se confier, pour retrouver un petit peu d'assurance, pour confier ses peines, ses misères. Et l'arbre est un médiateur entre le ciel et la terre. On dit qu'il converse avec les génies ailés, avec ses branches, il a contact avec les puissances infernales, avec ses racines. Le tronc de l'arbre, c'est le médiateur, c'est le combiné téléphonique. Et d'ailleurs, les premiers lieux de culte, les druides, plus tard la religion chrétienne qui viendra s'installer là, eh bien, choisiront les premiers lieux, seront des lieux forestiers. D'ailleurs, quand on va installer les églises, les piliers des églises, ça représente quoi ? Ça représente la forêt originelle, la forêt des premiers lieux de culte. Alors, on a, nous, des chênes qui ont été christianisés, donc, par le dépôt de représentation de la Vierge à l'intérieur. Donc, c'est ces fameux chênes à Vierge qui sont des chênes sacrés. Mais on a aussi un autre chêne, alors, qui est assez particulier. On va aller à son pied. On va aller à son pied parce que je pense que c'est là qu'on en parlera le mieux.
Ah, ça y est, on y arrive.
Voilà, on l'aperçoit là. Alors déjà de loin, on voit que c'est un arbre quand même qui est d'importance. Hein.
Oui.
C'est un un arbre qui a à peu près 250 ans d'âge, à peu près, hein, en gros. Il en impose déjà par sa masse, par sa taille.
Mais il ouvre ses grands bras vers le ciel.
Il a quelque chose de tout à fait particulier. Alors déjà, le chemin qui y mène est fortement piétiné, parce que ça attire énormément de monde. Et on voit que dans les infractuosités de son écorce, là, dans les fentes de son écorce, on va trouver une multiplicité de petits bouts de papier. Alors, c'est un arbre à vœux, c'est un chêne à vœux. C'est le seul qui est en Franche-Comté. Les arbres à vœux en France sont très rares. Il y a quelques arbres comme ça qui sont dans les Ardennes, où on va. Ce sont des arbres à loques. Généralement, ce sont des tilleuls où on va mettre dessus des vêtements d'enfants. Des enfants malades qui n'ont pas pu obtenir de guérison. Et en dernier recours, on va porter vers le tilleul. Donc, un des vêtements de l'enfant, de manière que l'arbre intercède pour obtenir la guérison. Là, c'est tout à fait autre chose. On voit des petits bouts de papier. Alors, il y en a plein. Quand on
ils sont
est
glissés, en fait, dans l'écorce, dans les plis de l'écorce, jusqu'à à peu près 2,50 m de hauteur.
Voilà, oui, il y en a certains. Je me demande comment ils font pour les mettre aussi haut. Oui, ils doivent faire la courte échelle. Quand on vient à la fin de l'été ici, l'arbre est tout blanc. Tout est vraiment chargé. Il n'y a plus de place du tout. Tout simplement, quand on a un vœu, un espoir, un désir, quelque chose comme ça, eh bien, on marque ça sur un petit morceau de papier qu'on va confier donc à l'arbre. Et si ce vœu est recevable, s'il est fait avec sincérité, eh bien, l'arbre va intercéder de manière à ce que le vœu se réalise. Alors, c'est un arbre tout à fait extraordinaire. Et ce sont des vœux là qui sont marqués en japonais, en chinois, en cyrillique, en tout ce qu'on veut.
C'est un arbre polyglotte.
Et c'est extraordinaire, c'est que cet arbre-là, il est capable de traduire toutes les langues du monde.
Évidemment.
Alors ça, c'est le seul chêne polyglotte que je connaisse. Alors ça, c'est quand même formidable.
Voilà. On ne regarde pas.
Le fait de lire un vœu le détruirait.
Détruit.
Donc jamais on ouvre un de ses vœux. Il est confié à l'arbre. Il n'y en a que deux qui sont possesseurs du secret. C'est l'arbre et celui qui l'a écrit, bien sûr. Et quelquefois, on trouve au pied des morceaux des vœux qui sont tombés. Alors, on me pose souvent la question, pourquoi est-ce qu'il y a des vœux qui tombent? Alors, deux raisons. Soit le vœu n'a pas été fait avec sincérité et l'arbre le rejette. Et puis, il y a des vœux qui sont réalisés. Donc, eh bien, ma foi, il fait de la place pour les suivants.
Il y a un bureau de vérification des vœux.
On a un cahier ici au baraque du 14, là, non loin de cet arbre, on a un cahier qui recueille les témoignages de ceux qui reviennent, bien sûr.
Mais c'est très émouvant, hein. C'est très païen, quoi. Donc.
Oui, là, on retrouve bien évidemment cette tendance de se rapprocher du végétal, de se rapprocher de cette puissance qui nous impressionne tant, en fin de compte. Quoi, lui, il est le témoin du temps. Nous sommes qu'une petite étincelle dans sa vie, là, qu'un petit feu follet.
Moi, je pose juste ma main dessus parce qu'il y aura une énergie.
Oui, c'est vrai qu'il se dégage une force.
Ah oui, il se dégage une force. Voilà.
Merci Alain Goy, et donc vœux à volonté. Voilà, c'était donc notre balade arboricole du jour. Merci à Gilles Gaillard, Léo Pringeret, et puis Camille Blanès et Xavier Pestudia qui réalisait l'émission, Muriel Pérez pour les disques, Anne Gouzon qui nourrit les sites de CO de Mon Amour, la diffusion entre 5h et 6h du matin. Ouais, ce sera dimanche. Là, le podcast, abonnez-vous au podcast. L'atelier du Mon Petit Loup, ce sera demain à 19h54. Le répondeur, 01 56 40 40 35.